Eh bien, si je vous ai lu les chapitres 18, 19, le procès de Jésus devant Pilate, eh bien, c'est en rapport avec ce message que je pourrais intituler vivement ses pieds sur le mont des Oliviers. Parce que il y a 2000 ans, les disciples de Jésus voyaient leur Seigneur monter au ciel et recevaient la promesse que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Et le texte se poursuit. « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. » Puisque le juif, le jour du sabbat, n'avait pas le droit de faire plus qu'une certaine distance. Un chemin de sabbat. Alors le mont des Oliviers est donc le lieu stratégique de la bascule dans l'histoire des nations. Le Christ a accompli l'œuvre du salut en vue de la foi et de la joie des repentis. Il est alors monté au ciel pour y régner. Et au temps qu'il jugera, il viendra avec tous ses saints pour rétablir le royaume d'Israël sur des bases nouvelles, puisque c'était bien la question que les disciples, juste avant cet enlèvement de Jésus, posaient. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors, je prends exactement. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est exactement la phrase, je ne me trompe pas. Voilà c'est la question que les disciples posaient à Jésus. Donc l'idée, c'est quand même bien que le royaume d'Israël doit être rétabli. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette période qui continue et qui porte ses fruits. Le Seigneur permet que l'Évangile soit répandu par ses témoins sur la face de toute la terre. Mais, alors qu'il règne déjà dans le ciel, au temps qu'il jugera, que le Père a déjà fixé, il viendra avec tous ses saints pour rétablir le royaume d'Israël, pour vraiment que vienne le règne. C'était annoncé sous un autre angle par le prophète Zacharie. Le jour de l'Éternel arrive, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Prophète Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 4. Cette annonce, bien sûr, ne peut pas se comprendre à l'écart de celle qui la précède, au chapitre 12. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Chapitre 12, verset 10. Celui qu'ils ont percé, nous venons de le lire. Ils ont voulu que Jésus soit crucifié. Israël est en guerre. La Palestine est déchirée. Nul n'a la solution. Jérusalem est disputée, car le cœur du conflit n'est même pas la Palestine, c'est Jérusalem, la ville elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle a un grand destin. Son nom n'évoque-t-il pas la paix ? La ville n'a pourtant guère connu la paix, hormis sous le règne de Salomon, fils de David. David avait conquis Jérusalem, Jébus, donc pour en faire la capitale du grand Israël, et au cœur de la ville se célébrait le culte à l'Éternel, au lieu que David avait acheté parce que le Seigneur lui avait montré ce champ et il avait tout préparé, mais c'est son fils Salomon qui a bâti le temple. Et du temps de Salomon, le règne de paix était là de façon réelle, mais bien sûr à la manière humaine encore. Donc elle est appelée au psaume 48, verset 3, la ville du grand roi. Au psaume 87, verset 3, nous trouvons « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. » Bien d'autres passages célèbrent encore Jérusalem. C'est la ville du grand roi, c'est la ville de Dieu. Envahie, conquise et reconquise, Jérusalem a cependant subsisté. Elle n'a pas disparu comme Babylone a pu disparaître. Si vous allez, j'ai jamais désiré aller moi à Jérusalem, et je sais bien sûr que beaucoup de chrétiens y sont allés. Et donc un frère disait que voilà, lorsque l'on entre dans Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, il y a vraiment quelque chose de particulier, une impression particulière, parce que c'est toujours la même ville en fait où David, Salomon, les rois et le Seigneur Jésus ont marché. Toute l'histoire est là. Alors la souveraineté du peuple juif y a été interrompue durant 2500 ans. Puisqu'en fait, c'est déjà du temps de Nabucodonosor que la ville a été conquise. Et depuis, même si il y a eu un retour, Israël n'a pas retrouvé la souveraineté sur sa ville. C'est toujours des nations, des empires qui dominaient la région. Hein, les Grecs, les Romains et d'autres avant eux. Mais elle fut quand même rétablie partiellement en 1948, suite à ce drame absolu qu'a été la Shoah, cette tragédie qui a en quelque sorte obligé les nations à redonner une terre, en tout cas une partie de sa terre d'origine à Israël. Toutefois, du temps où la contrée était dominée par les Romains, il y a eu cette histoire singulière qui s'y est déroulée, qui est la véritable histoire de la paix de Jérusalem, dont le monde entier bénéficie sans le comprendre. C'est puisque c'est Jésus, le prince de la paix, qui a été manifesté. Pourtant, il n'y a pas été reçu comme tel, bien qu'ayant été acclamé comme étant le roi de paix. Puisque, à son entrée à Jérusalem, Jésus accomplissait une autre prophétie de Zacharie, au chapitre 9, verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi de paix, celui qui annonce la paix, arrivé à Jérusalem monté sur un âne, en toute humilité, et véritablement, a véritablement été manifesté, et depuis, il annonce la paix aux nations. En annonçant donc l'évangile aux premiers païens, appelés à le recevoir, l'apôtre Pierre a résumé l'histoire. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Voilà le ministère de Jésus. Voilà ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 38 à 40, dans son message à Corneille et à sa famille. Quelle malheureuse erreur des chefs religieux juifs qui a compromis durablement la glorieuse destinée de Jérusalem. L'évangile rapporte, Luc 19, versets 41 à 44, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Tes ennemis t'environneront parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le roi a été manifesté, il n'a pas été reçu. On peut dire que le pouvoir et l'autorité du Christ auraient pu déclencher une guerre contre l'occupant romain. Certains n'aspiraient qu'à cela, bien que finalement, il se retranche derrière la parole « Nous n'avons de roi que César ». Si Jésus avait été prêt à agir selon sa puissance, eh bien là, il l'aurait suivi. Mais l'histoire aurait alors tourné très mal. Le Fils de Dieu avait un projet bien plus grand. Il a réprimandé son disciple Pierre, qui lors de son arrestation a frappé avec son épée. « Remets ton épée au fourreau, car tous ceux qui emploient l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? » Jésus-Christ n'était pas venu pour un combat et une victoire passagère qui entraînerait des cœurs meurtris, des représailles et une guerre à n'en plus finir. Il venait mettre fin à ces choses. Et il le confirme à Pilate, qui l'interroge, « Es-tu le roi des Juifs ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde. » répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» La tragédie de l'histoire humaine est contenue dans cet échange. Le peuple préparé pour accueillir le roi de vérité l'a rejeté. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ceux qui étaient chargés parce qu'ils connaissaient la loi de Dieu. Ils avaient été mis à part pour cela, pour le vrai culte. Ceux qui connaissaient n'ont pas reçu la vérité donnée en Jésus-Christ. Et ils l'ont livrée aux païens, livrée au monde profane, livrée aux autorités de ce monde. Et le monde profane, à travers l'une de ses figures politiques, qui était là placée en première ligne, le procurateur romain Pilate, a refusé de s'intéresser à la vérité. En disant « qu'est-ce que la vérité ?», en posant cette question comme ça à la volée, Pilate, tout simplement, esquive. Il ne veut pas s'intéresser à la vérité. Et c'est toujours la même situation dans le monde. Le monde, avec sa sagesse, avec sa propre intelligence, avec ses capacités, ne veut pas s'intéresser à la vérité. Et ceux qui étaient chargés de recevoir la vérité ne l'ont pas reçue. Et tout le problème de l'humanité est là. Le monde religieux, comme le monde politique, n'a pas reçu, ne reçoit pas le roi de la vérité. Mais en même temps, Jésus dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Donc, si Pilate, lui, n'a pas écouté la voix, si les responsables juifs n'ont pas reçu la vérité, il reste dans ce monde, déjà du temps de Jésus, par ses disciples, et ensuite dans le monde entier, par ceux qui recevront leurs paroles et leurs témoignages, il y a ceux qui reçoivent la vérité de Dieu. Et c'est avec cela que le Seigneur est en train de constituer son royaume. Royaume qu'il manifeste déjà dans leur vie, mais royaume qu'il manifestera aussi au temps voulu à travers la nation d'Israël qui aura été convertie. À ce moment-là, la vérité pourra être manifestée et porter tout son beau fruit, amener le royaume de Dieu. Je pense que je vous ai partagé l'essentiel. Et si nous sommes de la vérité, si nous avons reçu la vérité qui est en Jésus-Christ, combien nous devons nous réjouir, la travailler, cette vérité, vivre de plus en plus dans la vérité. C'est le thème de ces deux épîtres de l'apôtre Jean, déjà dans la première, mais la deuxième et troisième qui sont très courtes, qu'on a relues récemment, eh bien, Jean revient sur ce thème de la vérité. Je vais reprendre ses paroles. Dans la seconde, l'ancien Akiria l'élu, c'est-à-dire il personnifie certainement l'Église, là, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et ce commandement, eh bien, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher et comme vous l'avez appris dès le commencement. Vérité qui est en Jésus-Christ et en lui seul et que personne d'autre ne peut apporter comme celui dont il est question dans la suite de l'Épître, c'est-à-dire l'Antéchrist qui ne reçoit pas le Père et le Fils. Troisième Épître de Jean, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et ainsi de suite. Et au verset 12, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Voilà, on pourrait retrouver beaucoup de mention de la vérité dans l'Évangile et donc les Épîtres de Jean. Et parce que Jean a focalisé sur cette réalité qui fait que nous accédons à la vie grâce à la vérité qui est en Jésus-Christ. Et que c'est dans cette vérité que se construit le royaume véritable. En dehors de cette vérité, il ne peut pas y avoir de monde stable, en paix, dans la justice. Uniquement la vérité qui est en Jésus-Christ peut donner cela. Alors concernant Israël, eh bien, il faudra attendre les temps que le Seigneur connaît pour que cette nation qui a été mise à part pour la vérité dès le commencement, puisse la recevoir à travers l'épreuve finale, à travers l'épreuve terrible. Il est écrit « jusqu'à ce que la force du peuple saint soit entièrement brisée ». Et à ce moment-là, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Et là, le Seigneur pourra venir les visiter et pourra répandre sa vérité et son royaume de vérité pourra se manifester. Et se manifester spécifiquement à partir de Jérusalem. Parce que c'est là que les choses s'accomplissent, tout simplement. Alors que le Seigneur nous garde dans cette espérance et qu'il permette à ceux qui déjà au milieu de son peuple ont reçu le témoignage de la vérité, d'avoir justement, à travers des circonstances graves comme actuellement, avoir beaucoup plus d'impact sur leurs concitoyens, sur le monde juif, que vraiment les juifs messianiques, qui sont plusieurs associations qui vraiment témoignent de la grâce de Dieu au sein du peuple juif, eh bien, puissent vraiment faire gagner le royaume auprès des leurs. Que nous puissions les soutenir dans ce témoignage qu'ils ont spécifique envers Israël. Nous ne devons jamais oublier que le salut de Dieu a été donné pour le juif premièrement, puis pour le grec. C'est ce que l'apôtre Paul établit dans son introduction à l'Épître aux Romains. Je vais terminer avec cette citation au chapitre 1, versets 16 et 17. « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est bien pour nous aujourd'hui le temps de vivre par la foi en notre Seigneur qui a été crucifié. Et même si nous ne voyons pas qu'il règne, comme dit aussi l'Épître aux Hébreux, hein, toutefois, il règne véritablement déjà aux cieux et nous pouvons vraiment mettre totalement notre confiance en lui et vivre son royaume dans nos cœurs, dans nos relations, le répandre au sein de l'Église, mais autour de l'Église, vraiment que le royaume de Dieu puisse être prêché maintenant par nous qui gardons la même foi qu'au commencement. Et alors, eh bien, nous serons prêts pour le moment où le Seigneur établira le royaume. Car le Seigneur vient, c'est incontournable, c'est annoncé et ça se fera. Amen.